Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette thématique grippe, point d'actualité 2019-2020, avec donc Madame Cécile Janssen, pathologiste, donc vous êtes vous occupez de pathologie infectieuse et tropicale à la clinique, et au CHU d'Annecy. Madame Anne Monnier, vous êtes médecin épidémiologiste, médecin généraliste et membre du réseau d'observation des maladies et des épidémies OpenROM. Monsieur Édouard Fougère, vous êtes pharmacien, membre du groupe de travail de la Société française des sciences pharmaceutiques officinales sur la vaccination à Paris. Et enfin, monsieur Gaëtan Gavazzi, vous êtes gériatre au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Et nous allons commencer par vous. Pour parler en fait de la vaccination donc chez les sujets âgés en gériatrie et de l'enjeu du stress. Vous m'aviez parlé de la grippe, un stresseur important en gériatrie et pour les personnes âgées. Donc je vous passe la parole. On a 10 minutes pour la présentation de votre diaporama. Merci beaucoup.
Merci de l'invitation et de permettre de donner quelques éléments de réflexion, on va dire, qui datent de quelques années autour de cette maladie particulière. Ça, c'est tous mes liens d'intérêt. Je signalerai juste que j'en ai aucun pour l'instant avec les syndicats, mais ça peut peut-être venir. Il faut que vous gardiez, je ne fais aucune présentation sans signaler quand même l'hétérogénéité du vieillissement et la problématique qu'on a, la plupart des données sont faites par classe d'âge, ce qui est complètement aberrant, bien sûr, puisque comme vous voyez en bas à gauche, c'est mon tonton Julien qui fait à peu près toujours ça et puis qui a 10 ans de plus que mes autres grands-parents qui sont en bas à droite, vous voyez, donc ça correspond à rien. Et en haut à gauche, vous avez le premier homme de plus de 80 ans qui est monté en haut de l'Everest. Et il va y en avoir bien d'autres. Donc hétérogénéité, il faut l'avoir en tête parce que toutes les données que vous avez dans la littérature ne tiennent pas compte de ça. Et ce qui est un enjeu assez important au moment où on est dans la médecine personnalisée. Ce qui fait dire que donc, dans le vieillissement, il y a une susceptibilité à beaucoup d'événements. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déclencheur avec beaucoup de complications qui font révéler à la fois des insuffisances d'organes, de maladies chroniques qui s'ignorent, une maladie chronique sur deux s'ignore, et toutes ces problématiques que vous voyez ici, qui sont des complications habituelles chez des gens hospitalisés, eh bien aboutissent à de la dépendance. On a deux systèmes de financement complètement différents qui font que si on évite un événement grippal, par exemple, qui peut déclencher tout ça et aboutir à de la dépendance, le coût de la dépendance ne va pas du tout être calculé dans le bénéfice potentiel qu'on a à éviter cette dépendance qui arrive, puisque la dépendance, le financement dépend des conseils départementaux et pas du tout de la sécurité sociale. Donc ça, c'est un point assez important parce que, du coup, toutes les études de coût-efficacité, en particulier chez les personnes vieillissantes pour lesquelles il y a des enjeux de dépendance, sont ineffectives. La surveillance, ça a dû vous être rappelé, donc je vais passer assez rapidement, mais c'est juste pour dire qu'on a de plus en plus de cas quand même confirmés qui nous permettent, d'aller voir un petit peu plus directement, plutôt que sur des modèles mathématiques, l'impact de la grippe. Et je vous donnerai un exemple sur un travail national qui a été fait il y a un an et demi par les gériatres et les infectiologues du groupe que je coordonne. Un autre élément très important qui fait qu'on ne comprend rien à la grippe régulièrement, c'est que si vous voyez les flèches rouges là, vous voyez, les grippes communautaires dans cette année 2013-2014 faisaient qu'il y avait, c'était une grosse grippe communautaire qui n'avait pratiquement pas eu d'hospitalisation. Quand je dis pratiquement, ça veut dire seulement un peu plus de 10 000. Et puis qui n'avait pratiquement pas eu d'épidémie en EHPAD, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en tous les cas, pratiquement pas déclarée. L'année d'après, vous apercevez que s'il y a une grippe communautaire qui est un tout petit peu inférieure, mais par contre, vous avez doublé le nombre d'hospitalisations et en réanimation aussi, et vous avez décuplé le nombre d'épidémies en EHPAD. Et puis quand vous regardez la flèche verte, vous avez une très grande épidémie communautaire, et là, une explosion d'épidémies, de cas hospitaliers et de soins intensifs. Donc on voit bien qu'il y a une variabilité en fonction des lieux, en fonction de la façon dont on compte, qui fait que c'est très compliqué, à mon sens, d'essayer de comprendre quelque chose à la grippe, surtout quand on est quand on prend des données très grosses, comme là c'est le cas, où on va dire ben voilà, ça donne une incidence d'hospitalisation qui varie, vous voyez, de 8000 à 30000. Ça c'est pour quand on cherche et avec des déclarations PMSI. Il n'y a aucun de mes collègues qui pense à faire actuellement une PCR grippe à un patient âgé qui chute et qui se fait une fracture du col, par exemple. Nous, on s'est amusé, on s'aperçoit qu'il y en a. Autre élément intéressant, c'est qu'il y a quand même une variabilité régionale. Et depuis qu'on fait des PCR, ben, on s'aperçoit que, par exemple, en 2015-2016, il y avait des gens qui annonçaient que la grippe A inondait la France. Ben, moi, dans mon hôpital, puisqu'on faisait des PCR, on avait 2/3 de grippe B à ce moment-là. Vous voyez que les données, il faut les prendre vraiment avec des pincettes. Et donc, il y a une vraie variabilité, de lieu, de temps et de région. Maintenant, pour suivre, je voudrais parler des conséquences de la grippe. Alors, les conséquences de la grippe, c'est juste ça. Et si vous voyez la surmortalité qui est attribuée aux événements respiratoires, alors ça peut être le froid, ça peut être d'autres virus respiratoires, ça peut être la grippe, et je dirais de façon assez récurrente, on pense que c'est la grippe, mais moi je voudrais que vous attardiez sur la fluctuation annuelle, c'est-à-dire qu'il y a une fluctuation annuelle de surmortalité qui est acquise dans l'inconscient collectif et pour lequel on ne sait pas ce que c'est. Et moi je me pose la question de savoir si c'est pas déjà quelque chose qui est lié à des événements, alors grippaux, mais aussi VRS, etc., d'autres syndromes. Toujours est-il que sur les dernières années, on a eu des surmortalités quand même assez importantes qui correspondent à peu près à une canicule annuelle, une canicule hivernale sur laquelle peu de gens communiquent. Quand on regarde une mortalité juste intra-hospitalière, vous voyez, chez les plus de 80 ans, et ça, c'est des données encore PMSI, hein, donc quand vous demandez à un de mes collègues ce que vaut le PMSI en épidémiologie, chaque spécialiste a envie de sourire en disant « mais ce n'est pas la réalité, il y a beaucoup de faux diagnostics, il y a beaucoup de sous-diagnostics, enfin, c'est compliqué, la question est juste l'argent qu'on veut se faire, que la T2A nous a malheureusement apprise ». Ceci dit, quand on regarde, il y a quand même 10% de mortalité intra-hospitalière, ce qui est pas mal sur les cas, en tous les cas, de grippe. Grippe et événements cardiovasculaires, je pense qu'un certain nombre de journaux ont rapporté ça maintenant. Moi, j'aime beaucoup cette étude, puisqu'en 1932, déjà, il y avait une publication qui disait ben, « Regardez, certes, pendant la grande grippe espagnole, il n'y a eu que 14% de décès cardio-respiratoires, mais regardez les autres années. En fait, vous voyez le nombre et le pourcentage de mortalité cardiovasculaire qui augmentait pendant l'épisode ou en décalé de l'épisode grippal. » Donc, c'était de l'épidémiologie pure. Je trouve ça assez intéressant. Entre 1932 et 2000, on va dire 15-16 au moment où ça arrive dans l'esprit communautaire, on va dire il y a eu juste 80 ans, c'est l'âge de mes patients. Un autre élément, vous voyez, ça c'est une courbe que j'ai prise à Martin Fried de l'OMS, qui montre en fait à la fois la variabilité annuelle, la saisonnalité annuelle, hivernale, des pathologies ischémiques, des mortalités par cancer, des mortalités par diabète, etc. Donc, avec comme cause principale, bien sûr, le diabète, le cancer, etc. Et je trouve toujours assez intéressant de voir que ben, ça correspond à l'hiver. Donc, il se passe quelque chose l'hiver. Peut-être c'est la grippe, peut-être c'est pas la grippe, j'en sais rien, mais on peut se demander. Et là, nous, maintenant, on a fait une étude à la fois à l'hôpital, à la fois en EHPAD. On a demandé de déclarer tous les cas qui étaient positifs et voir à quoi ça correspondait. Alors, quand on parle de décompensation d'organes, c'est une insuffisance d'organes, c'est-à-dire que c'est une insuffisance cardiaque aiguë, c'est une insuffisance rénale aiguë, c'est des cas, on va dire, graves. Et donc on avait 60% des gens qui, en intra-hospitalier, quand ils étaient hospitalisés, avaient quelque chose de grave, ce qui fait, normalement, ils étaient tous éligibles à un soin intensif ou à un soin continu, mais il n'y en avait que 5% qui y allaient. la durée de séjour est le double à peu près de ceux qui n'ont pas de qui n'ont pas le même âge, qui sont plus jeunes et qui avaient une grippe. Et quand on regarde l'antibiothérapie, on avait une PCR grippe positif, mais on a tellement peur pour ces gens que on leur donnait des antibiotiques. Regardez le taux de mortalité intra-hospitalière, 12,2%. C'est déjà pas mal, je trouve. Ça fait en 16 jours, mourir en 16 jours, peut-être que c'est assez rapide pour quelqu'un de très âgé. Finalement, c'est peut-être pas mal. C'est un peu cynique, mais c'est une certaine réalité. On va voir après les choses. Il faut regarder quand même, il y avait 14% des gens qui étaient arrivés de chez eux et qui allaient étaient admis en EHPAD ensuite. Donc ça fait des séjours prolongés, etc. Et pour ceux qui étaient en EHPAD, il y avait 13% de mortalité. Il y a des durées de séjour qui étaient plus courtes, bien sûr, parce qu'on avait une porte de sortie quand on les hospitalisait. Vous voyez qu'il y avait une décompensation d'organes qui était très importante. Et surtout, je dirais, il y avait une surmortalité de 25% en intra-hospitalier. Et puis, quelque chose pour moi qui est très clair, mais qu'il faut encore démontrer. On a quelques données. Il va falloir faire des études pour le démontrer complètement, mais je pense que c'est très important. C'est que la grippe va tuer les gens, mais va pas forcément les tuer rapidement. Ils vont surtout, entre les deux, créer de la dépendance. Et donc il y a ces deux études, je dirais, les plus connues, et c'est des petits nombres qui sont à la fois de l'épidémio et à la fois du suivi, hein, comme vous voyez à gauche, où on voit qu'il y avait 25% des gens qui survivaient à la grippe avaient de la dépendance acquise à la fin de l'hospitalisation et à 4 mois. Nous, on a fait la même chose. Bon, alors c'est du rétrospectif, c'est tout à fait discutable, etc. Mais quand on regardait à 3 mois ce qui se passait dans les grippes, les 515 cas de grippe, finalement, on avait des données que sur 315, mais on savait qu'il y avait eu plus 13% de mortalité. Alors j'aime beaucoup, moi, la mortalité intra pendant l'épidémie, puisque pendant l'épidémie, vous savez, l'épidémie s'arrête quand on passe en dessous d'un certain seuil. Là, nous, on avait 13%, donc on doublait la mortalité en 3 mois. On voyait qu'il y avait un quart de réhospitalisés. On voyait qu'il y en avait encore 23% de ces gens-là qui allaient être admis en EHPAD. Donc, et certainement en lien avec la dépendance, puisque finalement, on avait un tiers des gens qui avaient de la dépendance acquise et qui n'étaient pas réversé, je ne sais pas si le terme français est exactement ça, mais en tous les cas, il n'y avait pas de retour à l'état de base pour un tiers des gens qui survivaient. Et ce qui veut dire une dépense absolument, absolument énorme. Qu'en est-il des vaccins ? Alors les vaccins, moi j'aime beaucoup cette étude qui montre que le monde cardiovasculaire se réveille, et c'est une étude que j'aime bien parce que ce sont des cardiologues qui montrent qu'il y a même un effet dose, et que quand on se vaccine à peu près tous les ans, au bout de 3 ans, on a une efficacité de moins 28%. Donc tous les ans, on a de la diminution de mortalité liée à la vaccination. Alors c'est pas beaucoup, hein, c'est moins 10%, moins 15%, puis à la fin moins 28%. Mais en fait, quand on calcule et qu'on compare aux statines, c'est au moins aussi efficace, voire plus efficace que de prendre une statine tous les jours. Avec des vaccins qui sont pas bons. Des vaccins qui ont une mauvaise efficacité, ça c'est des sujets âgés, hein. Donc ils sont pas bons, enfin ils sont pas bons, mais ils sont aussi bien qu'une statine. Et puis là, peut-être encore plus intéressant, comme ils sont pas bons, il y a eu récemment et aussi dans les EHPAD une étude de Gravenstein que j'ai pas le temps de vous présenter, mais ça c'est une méta-analyse sur l'efficacité des hautes doses. Donc vous savez, pour améliorer la vaccination antigrippale ou l'efficacité, et on essaye de tous les moyens, et des gens ont eu l'idée de multiplier par 4 les doses. On a à peu près la même, ils sont à peu près aussi sécures que les doses standards, mais quand ils sont comparés, et donc ça c'est sur 2 essais, mais le principal c'est celui de Diaz-Granados, il y avait une efficacité de plus 24%. On diminuait de 24% encore par rapport à la dose standard. Donc moins 24% par rapport à la dose standard et par rapport à une efficacité. Je dirais que tout est bon à prendre sur une maladie qui est extrêmement importante. Donc il faut savoir communiquer là-dessus. Et savoir communiquer sur les maladies elles-mêmes, comme je vous l'ai fait là tout de suite, sur les vaccins et sur les patients âgés, eh bien nous avons créé un MOOC qui s'appelle le groupe infectiogériatrique. La dernière session pilote est en cours actuellement, elle va bientôt se terminer. Il y aura une prochaine session en mars et mai. Ce correspond donc à une formation de 30 minutes par semaine avec des quiz sur 8 semaines et validant seulement 3 heures de DPC, mais c'est déjà pas mal. Et donc la prochaine session aura lieu en mars et mai. C'est validé par la Société de pathologies infectieuses de langue française et le conseil scientifique de la Société française de gériatrie, la nécessité d'information et la nécessité d'éducation des professionnels de santé vis-à-vis des maladies à prévention vaccinale, donc de leur gravité, de leur impact et de la façon dont on prévient est absolument majeure, puisque c'est à peu près ça qu'on a trouvé comme absence de moteur, mais je crois que ça va être rediscuté. Voilà, je suis ouvert aux discussions.
Merci beaucoup. On prendra les questions à la fin. On va enchaîner donc avec le docteur Cécile Janssen pour parler donc de la composition du vaccin contre la grippe, ses spécificités et également la couverture vaccinale chez les professionnels de santé en matière de grippe. Et est-ce qu'il la conseille ? Donc je passe la parole à madame Cécile Janssen.
Merci beaucoup pour l'invitation et effectivement c'est un sujet qui me touche à plus d'un titre. Je participe au groupe prévention vaccination dans la Société de pathologie infectieuse de langue française et puis je suis infectiologue à l'hôpital d'Annecy. J'ai sur cette thématique quelques liens d'intérêt, surtout en tant que membre actif au groupe prévention vaccination. Mon principal lien d'intérêt, c'est avec ce groupe-là et également avec le groupe InfoVac, dans lequel progressivement je rentre parmi les experts. Alors, la question qui m'a été posée, c'était la composition du vaccin contre la grippe. Donc, question éminemment technique, et je remercie le professeur Bruno Lina pour le prêt de ses diapositives. D'abord, bien entendu, je voulais revenir sur le fait que c'est un vaccin qui existe depuis un certain temps, 72 ans déjà, et qui, finalement, a, comme l'a montré d'abord les diapositives de Daniel Lévy-Brul sur l'utilisation, la couverture vaccinale, mais également le professeur Gaëtan Gavazzi, nécessite qu'on continue à se l'approprier chaque année. L'objectif de la mise en place de ce vaccin, c'était surtout de protéger les sujets les plus à risque, les protéger contre les complications de la grippe, contre la grippe elle-même, et puis contre la complication après le passage de l'épidémie, c'est-à-dire la perte de l'indépendance, de l'autonomie. Le deuxième objectif est bien sûr de réduire l'incidence globale de la maladie au sein de la collectivité, donc de majorer l'immunité de groupe. On n'a pas de vaccination généralisée en France. Il s'agit d'une vaccination qui va être proposée aux personnes à risque, aux personnes qui sont l'entourage des personnes à risque et également, bien sûr, dans cet entourage, aux professionnels soignants. Alors, qu'y a-t-il dans le vaccin ? Il y a essentiellement quatre types de souches vaccinales, le H1N1 pour le type A, le H3N2 pour le type A, et pour le type B, le Yamagata et le Victoria. Cette composition est revue chaque année et adaptée en fonction de l'épidémiologie, de la circulation du virus qui est surveillée bien sûr par l'Organisation mondiale de la santé et au niveau national par le Centre national de référence. Cette évolution nous permet de dire que les souches sont différentes chaque année, plus ou moins en fonction du sérotype. Et quelques diapositives m'ont paru pertinentes simplement pour expliquer comment l'exercice est complexe et comment finalement on arrive à une efficacité somme toute, même si elle n'est pas parfaite, assez intéressante, surtout dans la population qui va protéger les populations âgées ou les populations immunodéprimées. Et donc cette diapositive va permettre de comprendre que on fait une étude virologique très poussée, phylogénétique, et que l'on observe les virus circulants. Donc en couleur à droite, vous avez tous les virus circulants au niveau mondial par année. Cette circulation est très différente d'un sérotype à l'autre, puisque on voit qu'il est très stable quand on s'intéresse au H1N1. On voit cette bande verte très très stable, qui fait que la difficulté dans le cadre de l'efficacité du vaccin et surtout de la performance en termes de choix de souche à l'intérieur du vaccin ne relève pas de l'analyse du H1N1, mais bien plutôt des autres souches. Pour le vaccin B, sur le Yamagata, vous voyez finalement la variation qui est plus importante dans cette lignée, et pour le Victoria, une certaine stabilité. Et en fait, cette analyse, au-delà de s'intéresser aux souches, s'intéresse également à l'hypothèse de l'année à venir. Et donc, les virologues se sont associés en créant une base de données énorme à de l'analyse de big data par des biostatisticiens qui permettent, comme vous le voyez sur le graphe à gauche de la diapo, de prévoir l'épidémie. La belle courbe en pointillé est la courbe des mathématiciens, et de façon assez impressionnante, la courbe un petit peu plus, on va dire, un peu moins précise, ben c'est la courbe en vie réelle. Donc les hypothèses des mathématiciens associées aux hypothèses des virologues permettent de donner une proposition pour cette année qui sera pour la souche AH1N1, la souche Brisbane, qui va être donc une souche nouvellement instaurée dans le vaccin. Pour la souche AH3N2, la souche Kansas 2017. Et puis pour les souches B, la lignée Victoria, le Colorado et le Phuket 2013. Ces vaccinations, vous le savez, sont des vaccinations qui, depuis l'année dernière, sont proposées donc avec des vaccins quadrivalents, donc quatre souches, qui peuvent être débutées à partir de 6 mois et qui sont produites sur œufs embryonnés de poule avec 15 microgrammes. Pour la France, on n'a pas encore accès aux high doses que les Américains, eux, ont mis en place déjà depuis au moins un an. Il se rappelle que ce vaccin ne comporte absolument pas d'adjuvant. La deuxième question qui m'a été posée par Madame Le Gac, c'était comment vaincre les réticences des professionnels de santé à se faire vacciner. Parce qu'effectivement, on observe qu'il y a un paradoxe au sein des professionnels de santé qui font partie des populations qui entourent et qui font partie de l'entourage des personnes fragiles. D'abord, il faut savoir qu'il y a une recommandation vaccinale que l'on retrouve dans le Code de santé publique sur la question de la vaccination des professionnels de santé. Que l'objectif de la vaccination antigrippale de ces populations, c'est de diminuer la transmission de la grippe liée aux soins, donc de diminuer les grippes nosocomiales, et de réduire, bien sûr, l'absentéisme au moment des épidémies, puisque à partir du moment où on a une épidémie, ce qu'on veut, c'est que l'hôpital fonctionne bien et que le système de soins au-delà de l'hôpital fonctionne bien. Paradoxalement, il y a une impopularité qu'on retrouve pour ce vaccin et quasiment de façon ciblée sur ce vaccin auprès de certains professionnels de santé, ce qui va nous permettre de comprendre que la couverture vaccinale soit insuffisante et que les épidémies nosocomiales qui pourraient être évitées parfois sont impressionnantes. Alors oui, le vaccin antigrippal n'est pas efficace à 100%, mais plus on est jeune, plus il est efficace et forcément... vacciner les professionnels de santé permet d'améliorer la protection des personnes qui ont une moins bonne réponse au vaccin. On associe, puisque ce vaccin n'est pas efficace à 100%, d'autres mesures comme le port de masque. Donc, de nombreux lieux maintenant d'accueil des patients recommandent le port de masque quasiment universel, parce qu'il n'y a d'ailleurs pas que le vaccin grippal qui circule parmi les vaccins respiratoires. Et puis, on va renforcer, bien sûr, les recommandations que l'on fait annuellement sur le lavage des mains. Là, c'est un zoom. Donc, le docteur Lévy-Brulle avait montré les chiffres sur la France de la couverture vaccinale des soignants. Et là, c'est un zoom européen. Avec, on le voit, la France qui a grosso modo une couverture donc entre 30 et 40%. On va de 2007 à 2015 sur cette diapositive. Et qui est moins performante que l'Angleterre, la Hollande. Et pour une certaine période, hein, en 2007, ils ont été très bons, les Roumains. L'état des lieux à l'échelle mondiale est également très intéressant parce qu'on voit qu'en rouge, là, on a une évolution avec une amélioration constante de la couverture vaccinale pour les professionnels de santé contre la grippe, et en rose, une diminution de cette couverture vaccinale. Alors, ces données sont aussi à moduler à partir du moment où on sait que le niveau de couverture vaccinale va varier en fonction et des politiques de santé, puisque, par exemple, l'Amérique du Nord a mis en place une obligation vaccinale pour les professionnels de santé. En Europe du Nord, on a un standard social qui fait qu'il y a une reconnaissance de l'efficacité du vaccin et également de l'importance des conséquences de l'épidémie grippale. Au Japon, il y a une perception du risque qui est très élevée sur les maladies, on va dire, respiratoires. On les voit volontiers porter un masque. Et donc, la vaccination fait partie de l'arsenal pour eux préventif qui est naturel d'utiliser. Les freins à la vaccination, eux, sont multiples et on le sait. Malheureusement, ils reposent essentiellement sur des idées qui souvent sont fausses. Les erreurs de jugement sur la sécurité, l'efficacité vaccinale. On sait qu'il y a peu d'effets indésirables, que le vaccin est souvent très bien toléré, que finalement l'efficacité vaccinale est plutôt assez satisfaisante, 60-70% chez la personne immunocompétente, et que ça reste une des seules bonnes réponses pour éviter un taux de mortalité qui reste très élevé. Enfin, il y a également les expériences personnelles des professionnels de santé qui sont encore réticents, parce qu'ils ont eu une grippe alors qu'ils étaient vaccinés. C'est la notion, bien sûr, d'efficacité vaccinale non à 100%. Et puis enfin, les messages anti-vaccinaux auxquels, malheureusement, certains professionnels de santé adhèrent. Donc tout ça revient à dire, et on l'a vu sur les trois précédentes tables rondes, que la communication est capitale. Et pour ce faire, une fois qu'on a établi un projet d'amélioration de la couverture vaccinale des soignants, on doit respecter quatre étapes. Expliquer la grippe nosocomiale aux professionnels en contact et non en contact avec les patients, également aux personnes qui viennent à l'hôpital. Essayer de comprendre et de représenter la raison pour laquelle les gens sont hésitants, fournir une information qui soit sans langue de bois, qu'on ne passe pas sur des questions qui sont des questions qui font le lit de cette mauvaise adhésion à la vaccination antigrippale. Et puis, pour emporter la conviction des indécis, utiliser un outil qui est vraiment capital, qui est l'entretien motivationnel. On va aller écouter la raison pour laquelle les gens sont réticents, parce que chacun porte l'histoire et son histoire à lui concernant la vaccination. Donc, imposer quelque chose, c'est une chose, mais en fait, ça marche assez peu. Et convaincre nécessite l'écoute et l'interaction et laisser libre parole aux anti-vaccinaux et à ceux qui ont un doute pour pouvoir faire part soit des paradoxes, soit des ambivalences, et puis les laisser progresser. Il faut aussi accepter que ça prenne un certain temps. Enfin, il faut faciliter l'accès aux vaccins, donc ne pas travailler uniquement à se dire ben, voilà, on a des recommandations, ben, les vaccins, vous savez où ils sont. Et après, laisser les gens se débrouiller. Il faut faciliter la vie des gens. La vie est compliquée. Pour arriver ici, ça a été compliqué. Pour en repartir, ça sera compliqué. Eh bien, l'idée, c'est que quand on a des gens facilitateurs pour que tout ça soit non angoissant, on va plus facilement venir et se dire que c'était une bonne expérience. Il faut faire la même chose pour le vaccin. Sur la phase d'explication, il ne faut surtout pas passer rapidement. Il faut que l'objectif soit un objectif collectif. Il faut que chacun se saisisse de l'objectif. On a remarqué qu'il y a eu une amélioration sur les chiffres présentés par le docteur Lévy-Brulle. C'est les sages-femmes. Et je suis quasiment persuadée que plus on va donner de responsabilités dans le cadre de la vaccination, plus les gens vont également se vacciner. On ne recommande pas un vaccin qu'on ne fait pas. Enfin, il faut également expliquer pourquoi on parle de sous-efficacité, pourquoi le vaccin parfois est pile poil dans la cible ou pas dans la cible. Il faut comprendre la complexité de la fabrication du vaccin, tout en disant, malgré tout, ça n'empêche pas que chaque année il faudra se faire vacciner, parce que ce n'est pas parce que cette année on a vu beaucoup de H3N2 que l'année prochaine ce sera la même chose. L'entretien motivationnel, c'est une problématique fort complexe et en même temps passionnante qu'il est nécessaire de mettre en place, pas uniquement vis-à-vis des patients, mais également vis-à-vis des professionnels. Et puis enfin, pour conclure, je pense que la notion d'études sociologiques et psychologiques des professionnels de santé est important. Il y a beaucoup de travaux qui s'efforcent à réduire le fossé intention-comportement, et on observe que sur certaines études, eh bien, l'efficacité de la technique de planification, le fait de permettre au personnel d'anticiper leur vaccination, comment elles vont avoir accès au vaccin, comment est-ce qu'elles vont mettre en place ensuite la réalisation du vaccin, cette technique de planification permet d'améliorer l'intention vaccinale. Par contre, de façon assez intrigante, n'améliore pas le taux de vaccination des soignants. Donc ce n'est pas suffisant. Le fait de dire qu'il y a un problème, c'est une chose. Le fait de trouver une solution, c'est qu'il faut modifier quelque chose dans notre façon de faire. C'est pour ça que oui, je trouve que c'est vraiment très pertinent de faire de la collaboration avec les infirmiers, et que les infirmiers soient les premiers à vacciner, que les sages-femmes également, que les pharmaciens également soient aux côtés des médecins, des partenaires très forts, puisqu'on voit que quand ça ne se basait que sur la population médicale, ça ne marchait pas. Ou en tout cas, ça ne marchait insuffisamment. Il est intéressant également de noter sur cette diapo qu'on a 88% dans cette étude d'efficacité en termes d'accès au taux de vaccination pour les médecins. Et c'est simplement parce qu'on n'a pas exactement la même réponse en termes de comportement prosocial quand on est médecin, quand on est aide-soignant, quand on est infirmier. Il y a là un travail en cours qui se base sur deux hypothèses. Soit il y a une théorie du stéréotype, c'est-à-dire que je suis infirmier, il y a quand même un rapport avec le médecin ou avec sur le décideur de l'établissement ou de l'institution qui m'embauche, qui fait que je reste peut-être moins réactif quand on me propose la vaccination. La deuxième chose, c'est qu'on a un décalage également entre ce que le dirigeant veut proposer au niveau culturel à l'institution, c'est-à-dire dire en fait on a une norme indépendante, vous êtes des individus et chacun a un libre arbitre. Alors que les infirmiers et les aides-soignants ont tendance à plutôt être sur une norme interdépendante, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un idéal en groupe. Ils font partie d'une communauté. Et quand on est à 26% de couverture vaccinale ou 30% maximum de couverture vaccinale, on se dit qu'il y a quand même plus de personnes qui ne se font pas vacciner. À quoi est-ce que je vais adhérer ? Et ça, pour faire changer ça, eh bien, chacun, nous travaillons à la réexplication de ce que c'est qu'un virus, on en est là, à la raison pour laquelle on vaccine, à la raison pour laquelle c'est l'exemplarité dans notre métier qui fait qu'on aura une meilleure couverture vaccinale de ces professionnels.
Je vous remercie beaucoup de cette intervention. Donc, je vais passer la parole au docteur Anne Monnier. Vous voulez réagir à ce qu'a dit Madame Cécile Janssen en tant que... Voilà, vous êtes au cœur de la politique de santé ou en tout cas, vous la suivez de près pour adapter finalement la politique vaccinale en santé publique.
Alors, merci d'abord de m'avoir invité. Comme mes camarades, je vais vous parler de mes liens d'intérêt. Donc, moi, je suis généraliste, mais je fais surtout des consultations de prévention pour la CPAM de Paris. Donc, je n'ai pas trop de problèmes pour venir, ça va. Et je suis médecin généraliste et épidémiologiste dans une petite structure qui fait à la fois de l'éducation pour la santé, de l'épidémiologie et aussi pas mal de formations. Donc, j'ai été très impliquée, enfin, nous avons été très impliqués dans le programme de formation des pharmaciens à la vaccination. Donc j'ai un regard assez important là-dessus. Donc je participe à des groupes de travail, une fibre plutôt vaccinologie infectieux depuis le début, parce que j'ai été pendant très longtemps coordinatrice nationale du réseau de surveillance de la grippe, qui s'appelait réseau des GROG et qui aujourd'hui ne fait plus de surveillance de la grippe. Donc on a parlé ce matin, tout au long de la matinée, on a parlé des fragiles devant la grippe, on a parlé, Gaëtan nous a parlé des personnes de la gériatrie, on vient de nous parler des soignants. Alors c'est pas qu'on soit plus fragile, mais c'est aussi qu'on peut transmettre cette grippe à nos patients. Je vais essayer de vous redonner une petite... revenir un peu aux fondamentaux plus généraux sur la vaccination antigrippale et rappeler que l'objectif de la politique vaccinale en France, indifféremment des États-Unis par exemple, où c'est vaccination universelle. La vaccination universelle, quand on a une vaccination universelle, c'est comme on a pour la rougeole. même si c'est pas tout, on voudrait que toute la population soit protégée contre la rougeole pour empêcher l'agent infectieux de circuler et limiter donc la contamination des quelques-uns, puisqu'on ne sera jamais à 100% effectivement, des quelques-uns qui ne seraient pas protégés, pour la rougeole en particulier, puisque c'est un vaccin vivant et qu'on ne va pas pouvoir le faire chez les immunodéprimés. Mais dans la grippe, compte tenu aussi des petits soucis d'efficacité qu'on peut avoir, comme on l'a vu dans les deux précédentes interventions avec ce vaccin, et du fait que ce vaccin doit être refait chaque année, enfin ces vaccins, puisqu'on est sur 4 vaccins aujourd'hui, doivent être refaits chaque année. En France, on voit bien qu'on a été obligé d'arriver à l'obligation vaccinale pour conforter la couverture vaccinale des plus jeunes. Chez l'adulte ou chez les... Voilà, c'est un peu perdu d'avance, si j'ose dire, de se dire qu'on va obliger la vaccination contre la grippe, y compris chez les soignants. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais enfin bon, peut-être on y viendra quand même à un moment. Et donc, l'objectif, ce n'est pas d'empêcher... Évidemment, on aimerait, hein, c'est d'empêcher le virus de circuler. Il va circuler, on vous a déjà montré cette diapositive, cette courbe tout à l'heure, hein, qui vient des données de Santé publique France. Il y a de la grippe tous les ans. Donc les patients qui nous disent « je vais attendre de voir ce qui se passe pour me faire vacciner », les patients fragiles, c'est tout vu, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la grippe. Donc il ne faut pas attendre pour se faire vacciner, il faut se faire vacciner. Donc c'est des choses comme ça qui sont vraiment importantes à entendre, y compris pour les soignants, et surtout pour en première ligne, hein, pharmaciens, médecins, parce que c'est nous qui devons convaincre ces patients qui tardent et qui généralement se retrouvent pas vaccinés au moment où la grippe commence à circuler. Et même si on se dit, bon, tant qu'ils ne l'ont pas eu, il n'est pas trop tard, c'est quand même un peu malheureux d'en être à courir après le temps pour avoir une protection vaccinale. Donc l'objectif de la politique vaccinale en France, c'est de protéger les plus fragiles. Et je dirais que pour les soignants de première ligne, tout à l'heure on parlait de motivation, de discours, etc., c'est ce qu'il y a de plus facile. Parce qu'avant tout, on les vaccine pour eux. On les vaccine pour qu'ils soient pas, qu'ils aient pas de complications, qu'ils ne meurent pas, qu'ils ne passent pas à la dépendance à cause de cette grippe. Donc ça, c'est vraiment un argument de motivation, je pense, important, parce que c'est plus facile de convaincre quelqu'un, et on le voit bien chez les soignants, ce qu'on nous montrait avant, c'est plus facile de convaincre quelqu'un de se vacciner pour se protéger avant tout lui-même que pour protéger la personne âgée dont il va s'occuper ou je ne sais pas qui est autour de, avec qui sera peut-être... Il ne va même pas se rendre compte qu'il est en contact avec cette personne fragile. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ce qu'on veut, c'est limiter les risques de complications, d'hospitalisation, de passage à la dépendance, de décès, bien sûr, chez les plus fragiles. Évidemment, il y a un coût important de ces épidémies de grippe parce que ces pics que vous voyez, qui sont des pics en médecine de ville, hein, en médecine générale et en pédiatrie, évidemment, ce n'est pas des patients qui vont mourir de grippe pour la plupart, ce n'est même pas des patients qui vont passer à la dépendance pour la plupart, parce que c'est des gens qui vont chez le médecin pour avoir un arrêt de travail ou pour garder leurs enfants, etc., ou pour faire soigner leurs enfants. Mais c'est un coût, évidemment, qui est important, hein, un coût direct de consommation de soins. Et puis, il y a des arrêts de travail, il y a des pertes de production. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont le coût de la grippe qui sont quand même très importantes et qui en font un vrai problème de santé publique. Et je dirais aussi que la cerise sur le gâteau, c'est que la grippe, ça fait prescrire beaucoup d'antibiotiques, majoritairement probablement en mésusage dans les épidémies classiques, mais que ça participe aussi au problème écologique de la résistance aux antibiotiques. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre comme ça et de l'expliquer comme ça à nos patients. Donc cet objectif, on court après depuis 2004 officiellement, hein, première fois que ça a été mis dans les objectifs de la loi de santé publique de 2004, on est en 2019, et Daniel vous a montré tout à l'heure qu'on est à 50%, alors qu'on voudrait 75% de couverture vaccinale, on est à 50%. Et cette couverture, elle est plutôt plus basse que en 2008, ou avant la mauvaise année 2009, qui non seulement a été marquée par la pandémie H1N1 et sur un effet délétère probablement sur la couverture vaccinale grippe, ça je pense que c'est à peu près clair, mais aussi qui était aussi l'année du Mediator, et donc on a eu une année assez toxique pour la confiance dans le médicament, les firmes, les autorités de santé et les vaccins en particulier. Donc depuis cette année-là, la couverture a chuté et on a beau en parler, le dire et le redire, malheureusement, on n'arrive pas très bien à la faire remonter. D'où tout ce qui a été mis en œuvre, et moi je peux que applaudir à deux mains tout ce qui a été fait, de rajouter les pharmaciens dans la boucle, je pense que c'est important. Alors oui, on a envie que les pharmaciens vaccinent peut-être contre d'autres choses, mais il faut avancer un pas après l'autre. Pour avoir formé les pharmaciens, il y en a quand même beaucoup qui étaient assez réticents. Donc il faut déjà qu'ils se rôdent avec ce vaccin pour lequel on n'a pas d'inquiétude, etc., qu'ils mettent en route, qu'ils voient comment ça se passe. Et puis après, je pense que ce sera plus facile d'élargir À condition de former, hein, parce qu'il y a quand même, c'est pas pareil de vacciner une personne âgée contre la grippe ou un 15 ans, comme on disait tout à l'heure, si on ouvrait la vaccination plus largement contre d'autres pathologies. Donc je pense qu'il y, y aura besoin, un vrai besoin de formation, ce qui est une vraie question aussi. Et donc ce qu'on veut, c'est d'atteindre dans ces populations, je ne vais pas vous refaire le calendrier vaccinal, hein, vous le savez, et donc c'est vraiment important. Y compris, alors évidemment, il y a après ceux qu'on va vacciner comme les soignants, hein, mais aussi l'entourage des nourrissons à risque ou des immunodéprimés pour protéger ceux qui, chez qui le vaccin est soit pas possible sur le nourrisson de moins de 6 mois, soit peut-être encore moins efficace probablement chez les immunodéprimés. Donc cette couverture vaccinale, on vous l'a dit, on vous l'a redit, elle est insuffisante. Et si on veut la faire monter, il faut se remonter les manches. Il ne faut pas commencer à se regarder les médecins, les pharmaciens, les infirmières en disant « il me prend mon boulot », etc. C'est plus la question, je crois que c'est complètement obsolète comme question. Il faut avancer, d'autant plus que maintenant, c'est une mission du pharmacien, donc on ne va pas revenir sur ça. Et donc, il faut absolument augmenter cette couverture vaccinale en y pensant systématiquement et en parlant systématiquement. Et je pense que si on veut augmenter, même si je pense qu'après on va vous en parler, même si les pharmaciens ont très bien travaillé cet hiver pour la vaccination antigrippale, j'attends de voir les chiffres. Je ne suis pas tout à fait convaincue que ça va faire monter la couverture vaccinale de façon importante, parce que d'abord, il y avait un tour de rodage, hein, ce que je disais, chez les pharmaciens. Il va falloir quand même... Et que probablement, c'est beaucoup des patients qui venaient pour le vaccin, qui ont été vaccinés. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que les pharmaciens, ils remontent leurs manches pour aller chercher ceux qui viennent pour autre chose. Et que nous, on ne voit pas le diabétique... en bonne santé, par ailleurs, qui ne va pas retourner chez son médecin entre octobre et janvier ou février pour avoir un renouvellement, et qui vient chercher sa metformine. Il ne va pas parler de grippe. Si le pharmacien ou le préparateur ou la préparatrice ne parle pas de grippe, ce patient ne sera pas vacciné. C'est le seul professionnel de santé qui le verra. Donc c'est vraiment sur ces choses-là, aujourd'hui, qu'il va falloir travailler. Les formations, c'était assez dense, donc on n'a pas forcément eu le temps de faire beaucoup, et en particulier de travailler sur l'entretien motivationnel, parce que c'est des techniques, il y a des choses quand même, des petits trucs qu'on peut apprendre, et je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir aussi avancer. Et je dirais que c'est pas très grave si le pharmacien n'arrive pas à convaincre le patient, s'il a déjà fait le travail d'ouvrir la porte, d'en parler au patient, de lui mettre la puce à l'oreille, et puis peut-être ça sera un autre professionnel de santé, l'obstétricien, la sage-femme pour les femmes enceintes, le médecin généraliste, qui à un autre moment va convaincre le patient, peut-être l'année prochaine. Donc je crois qu'il ne faut pas vouloir avoir une augmentation de couverture vaccinale drastique cette année. Il faut laisser aussi un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Et donc... la grippe n'est toujours pas là, rappel. Donc les manches restent retroussées et il est vraiment pas trop tard. Alors là, pour le coup, c'est maintenant qu'il faut y aller. On va passer dans le trou des fêtes, les 15 jours de fêtes où c'est pas là que les gens vont aller se faire vacciner contre la grippe. Donc là, il faut mettre un petit peu le turbo là sur les 15 derniers jours, même pas, qui nous reste avant les fêtes pour rattraper. Et que en particulier à l'officine, on y pense. Et vraiment, à l'officine, moi, je pense que ce qui a été pas très réussi dans cette histoire, c'est qu'on a laissé les préparateurs et préparatrices sur la touche, et que peut-être ils ne peuvent pas faire le geste, mais ils peuvent avoir l'argumentaire et y penser, etc. Et il y a du travail à faire là-dessus. Et puis juste pour compléter ce qui a été dit plus tôt et qui n'était pas dans le sujet de ce que je voulais dire, on vous a parlé du high dose. Hein. Il faut savoir que on a un seul type de vaccin aujourd'hui, tétravalent, enfin en ville, tétravalent avec deux firmes, un qui pour l'instant n'a l'AMM qu'à partir de 3 ans, on souhaite, j'imagine qu'il l'aura l'année prochaine à partir de 6 mois comme l'autre, mais il y a d'autres vaccins dans les tuyaux, il y a le high-dose qui a déposé sa demande d'AMM européenne, et il y a le Flucelvax qui est un vaccin qui est le même que celui qu'on a, mais au lieu d'être cultivé sur œufs et cultivé sur cellules, qui lui a l'AMM européenne, donc ça fait partie des choses qu'il faut que vous sachiez que ça existe, parce que ça pourrait arriver dans le paysage, et que c'est toujours ennuyeux quand ce sont les soignants qui apprennent en dernier ce qui sort sur le marché. Donc j'en profite pour vous dire un petit mot là-dessus.
Ben merci beaucoup, docteur Monnier. Donc la transition est toute trouvée pour passer la parole aux pharmaciens. J'ai lu dans le quotidien du pharmacien il y a quelques jours qu'on était à 2 millions de doses délivrées en pharmacie d'officine. Donc l'implication des pharmaciens est importante. Au sein de votre groupe, la SFSPO, qu'est-ce que vous avez initié ? Est-ce que vous envisagez des formations, de la motivation des pharmaciens dans ce challenge.
Alors bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc Edouard Fougère, je représente la Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales, donc une société savante donc, de la pharmacie d'officine. Voilà. Donc nous, en fait, le rôle de cette société savante, c'est bien sûr d'élaborer des recommandations pour les pharmaciens d'officine, essayer de leur donner des outils pour mieux répondre à leur mission de santé publique, à leur mission scientifique. On agit vraiment sur le volet scientifique du pharmacien. Donc là, aujourd'hui, en fait, justement, c'est très bien d'être invité parce qu'on est vraiment dans un thème d'actualité pour la SFSPO. Notamment parce que on a justement conduit une étude sur la grippe et donc ça, la vaccination à l'officine. Justement, on s'est intéressé l'année dernière. C'est assez intéressant ce que vous dites parce que je vais y venir. On a fait une étude dans les pharmacies qui ne vaccinaient pas. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était encore en... Bon, cette année, c'est généralisé, mais l'année dernière, ce n'était pas généralisé, la vaccination à l'officine. C'était que dans des régions test. Et on s'est intéressé dans les régions où on ne vaccinait pas, quel impact pouvait avoir le pharmacien, finalement, auprès de ses patients, en gros, en leur disant, en leur expliquant un peu le bien fondé de la vaccination. En leur expliquant pourquoi, essayer de repérer des patients qui étaient en ALD, en affection longue durée, notamment les patients diabétiques et asthmatiques. C'est pour ça que je reviens à ce que vous disiez. Et pour voir un peu s'il y avait un impact, après, si c'était suivi d'effet, si on voyait le patient venir avec son bon et voir s'il y avait un effet derrière de vaccination. C'était intéressant parce que là, du coup, le pharmacien n'était pas jugé parti, c'est-à-dire que lui, il était juste là finalement pour donner l'information, mais il n'allait pas, à part bien sûr faire la délivrance du vaccin, mais il n'était pas là pour vacciner, donc c'était pas finalement pour rattraper un patient qui allait revenir à l'officine pour se vacciner. Et donc du coup, on a justement cherché à étudier ça, et c'est vrai que forcément, on voit que le pharmacien, il a un rôle hyper important, parce qu'on s'est notamment intéressé dans les territoires où il y a une désertification médicale. On a vu que finalement, le pharmacien, c'est vraiment un professionnel de premier cours pour motiver le patient, pour l'inciter à se faire vacciner, surtout dans les populations effectivement à risque. Et bien sûr, on a bien vu que les patients étaient plus qu'à l'écoute de leur pharmacien, essayaient notamment de lutter un petit peu contre les fake news, c'est vrai qu'on en parlait, notamment dans les milieux ruraux, je peux en témoigner parce que je viens d'une région, dans l'Indre, donc vraiment dans un territoire où il y a peu de médecins et où finalement il y a encore un peu beaucoup de croyances, entre guillemets, sur la vaccination, sur le recours aux médicaments de façon d'une manière générale. Et finalement, le pharmacien, il se passe quand même comme un intermédiaire qui est très intéressant parce que finalement, il est sorti de l'université, il a quand même un poids au niveau de ses connaissances. Je veux dire, on est quand même formé en virologie, en bactériologie. Enfin, je veux dire, on a quand même des connaissances qui sont solides. Il faut savoir les utiliser. On est vraiment les envoyés un petit peu de santé publique au sein des territoires pour motiver les patients. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte aussi, notamment dans cette étude, quand on a élaboré en fait cette étude, je me suis dit mais on va rajouter quand même juste une case pour voir si les patients sont sensibilisés au vaccin, les patients diabétiques s'ils sont sensibilisés au vaccin contre le pneumocoque. Et finalement on a eu des résultats assez ahurissants parce que effectivement on voit que les patients diabétiques sont pas forcément sensibilisés à cette vaccination. Et finalement qu'ils le sont au travers du pharmacien d'officine. Et on dit, mais au fait, vous savez, le pneumocoque, parce que c'est quand même une vaccination qui est recommandée chez le patient diabétique, et finalement, ils n'étaient pas au courant. Même nous, à la fac, finalement, on n'avait pas été très sensibilisés sur le cas particulier du patient diabétique, parce que finalement, on a eu des cours qui ne se croisent pas, parce qu'on a des cours de virologie, on a les cours d'endocrino-diabéto. Finalement, les cours ne se croisent pas forcément, et on ne parle pas forcément du cas particulier du patient diabétique. Moi, je l'ai su parce que j'ai fait un DU de diabétologie à côté de mes études. Et finalement, je me suis dit, ah oui, mais alors ça, en fait, on ne nous l'avait pas vraiment dit en fait, à la fac. Et c'est vrai que quand on l'a mis dans les pharmaciens partenaires de la SFSPO, quand on leur a dit qu'il fallait poser la question pour le pneumocoque, on a eu beaucoup de réactions, effectivement, comme quoi, ah bon, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est vrai, c'est recommandé. Enfin, c'est vrai qu'il y a, comme quoi, c'est vrai que la formation, elle est hyper importante, justement, sur des cas particuliers comme ça. Et donc, pour en revenir à la grippe, c'est vrai que la grippe, On a un rôle effectivement énorme pour sensibiliser nos patients. On parlait justement de... Alors, c'est pas d'entretien motivationnel, je crois que c'est ça, hein, vous aviez parlé justement, enfin de donner de toute façon la motivation aux patients. Moi, je pense que c'est bien parce que la nouvelle génération, entre guillemets, de pharmaciens qui sort de la fac, enfin, moi, j'ai été diplômé en mai 2019, on a maintenant dans nos cursus, donc bien sûr la formation à la vaccination qui est incluse dans notre cursus universitaire, mais on a aussi l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient. On doit passer les 40 heures pour pouvoir après rentrer dans des programmes. Et c'est vrai que justement on apprend un peu tout ce discours motivationnel, comment aborder un patient qui est un peu réfractaire, avec des verbatims très particuliers qui reviennent d'ailleurs assez souvent. C'est souvent un peu les mêmes verbatims qui reviennent sur la grippe. Les effets indésirables, effectivement, le côté un peu, il y a un lobbying, l'industrie pharmaceutique. Donc ça, du coup, on les connaît, on sait maintenant un peu mieux comment répondre. Et ça, je pense que maintenant, la nouvelle génération de pharmaciens qui arrive, je pense qu'on est vraiment prêt à relever le défi par rapport à ça, parce qu'en plus, on est une génération qui a finalement grandi à la fac avec cet esprit de nouvelle mission, finalement. Quand on a commencé notre cursus, moi, quand j'ai commencé mon cursus de pharmacie, on nous parlait déjà des nouvelles missions. Donc finalement, je pense qu'on est vraiment une génération de pharmaciens qui arrivent là sur le marché du travail, qui sommes prêts vraiment à se retrousser effectivement les manches pour vraiment relever le défi de la vaccination. Plus que, voilà, je pense que vraiment, mes confrères aussi finalement, qui sont sortis il y a peut-être plus longtemps, le sont prêts à relever, parce que je pense que pour une première année, je pense qu'on a quand même des bons résultats au niveau des doses qui ont été délivrées cette année. C'est vrai qu'après, il faut voir au niveau de la couverture vaccinale comment ça va se traduire, mais je pense que déjà, beaucoup de pharmaciens ont fait
Ce que disait Mme Meunier, c'est qu'en fait, les bons que vous délivrez en pharmacie, en fait, sont les bons qui auraient été en fait faits par le médecin et qui a peut-être une translation,
oui, après,
en fait, des
possible,
délégations,
oui,
de tâches, ouais. Et qu'en fait, le challenge à venir, ce serait de, ouais, que les pharmaciens aillent chercher ceux qui ne reçoivent pas ces bons ou qui échappent à la vaccination et qui en tireraient le plus grand bénéfice.
D'où, voilà, l'importance de la formation, effectivement, parce que moi, je vois au comptoir, quand j'ai un patient diabétique, je veux dire, maintenant, c'est un réflexe, que ce soit pour moi ou les équipes dans les pharmacies. Et je vois pour beaucoup d'autres confrères aussi, maintenant, ils ont quand même bien sensibilisé leurs équipes. Donc, par équipe, j'entends le pharmacien, donc le titulaire, les pharmaciens adjoints et les préparateurs. Voir les étudiants en pharmacie et les étudiants, les apprentis préparateurs qui sont aussi au comptoir, à l'officine. On a essayé de les sensibiliser pour dire, bah voilà, il faut un red flag, quoi. Le patient diabétique, on le laisse pas repartir sans lui avoir posé la question. Vous faites vacciner. Après, peu importe la réponse. Après, c'est une porte ouverte pour aller essayer. Nous, après, avec notre côté scientifique, d'essayer de lui faire comprendre que c'est important de le faire, sans non plus rentrer dans la confrontation après. Mais c'est important d'essayer d'ouvrir la porte. Alors ça, j'espère vraiment que les autres pharmaciens vont relever aussi ce défi. Mais je pense que les jeunes pharmaciens vont le faire.
Enfin. On va être sur cette note d'optimisme. On va respecter le timing. En tout cas, je vous remercie mille fois d'avoir participé à cette réunion. Je voulais donc peut-être dire un mot de conclusion. Monsieur Gavazzi, quels seraient en fait les mots de conclusion en tant que gériatre pour améliorer la situation ?
Tous les moyens sont bons pour améliorer la situation, et donc j'aurais gâché aucune opportunité. Mm-hmm. Les pharmaciens en sont une, mais il y en a multiples d'autres. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui est absolument déplorable en France, c'est l'absence de traçabilité. Mm-hmm. Et que personne ne soit au courant, comme en UK, vous avez un checklist qui s'affiche quand votre patient arrive chez vous. Vous cliquez sur un et vous savez qu'il faut lui parler de statine, qu'il va falloir lui parler de sa vaccination, etc. etc. On est en 2019.
Mais
on a
les
un
big
système
data vont arriver informe. En France.
Ce n'est pas d'arriver au big data, c'est d'arriver au fait qu'on, oui, n'utilise pas l'ordinateur comme dans les années 90. Oui. Et ça, je pense que c'est quand même une force, parce que quand on pourra faire ça, on aura une traçabilité majeure, et c'est notre problème. Donc il y a mesvaccins.net, hein, qui marche là-dessus. Ça, c'est sur la vaccination. Utiliser le plus rapidement possible les données de la science qui nous disent que ben, on a un vaccin qui est meilleur à 24% et qui diminue des hospitalisations, etc. J'ai croisé quelques personnes gérer des ministères récemment et qui parlaient des problèmes d'urgence. Je dirais que si on vaccinait, si tout le monde se vaccinait en France aujourd'hui, on n'aurait aucun problème d'urgence dans chaque année. On diminue tellement le passage aux urgences et les hospitalisations, c'est une évidence. Je pense qu'on pourrait modéliser ça de façon très très facile. Voilà.
Merci beaucoup. Oui.
Le mot que je retiendrai, c'est communication, effectivement. Communication auprès des professionnels, communication auprès des populations qui sont concernées. Une population pour laquelle je pense qu'il faut qu'on travaille énormément parce que les taux sont catastrophiques, c'est la population des immunodéprimés. Et pour ces patients, les études, qui sont des études plutôt locales dans différents centres, trouvent toujours les mêmes chiffres. Les médecins eux-mêmes ne leur parlent pas de vaccination pour, en tout cas, plus de 80% d'entre eux. Donc déjà, si nous communiquons, peut-être que nous gagnerons un peu en termes de couverture vaccinale. Et puis vaccinons là pour les 15 prochains jours, le prochain mois, et voilà. Ce jusqu'à janvier, fin janvier, vaccinons.
Voilà, merci. Un mot de conclusion ?
Un mot de conclusion, vraiment j'aime beaucoup ce que vous avez dit, parce que c'est vraiment, c'est très vrai. Je pense qu'aujourd'hui en plus on a des outils comme le dossier pharmaceutique ou le DMP, peut-être qu'on pourrait s'en servir effectivement avec cette checklist. Nous à l'officine en plus, je veux dire, on est tous, à l'officine on fait tout avec les logiciels, donc on a toujours le dossier du patient d'allumé. Je veux dire, c'est des red flags qui pourraient être vraiment bien, donc je pense qu'il faut qu'on crée du lien avant tout aussi avec notre patient. Entre professionnels, c'est bien d'avoir des journées comme aujourd'hui où on peut échanger entre professionnels, parce que finalement on en sort avec plein d'éléments intéressants, surtout pour éviter les fake news. Quand on a des interventions, on a eu plein d'interventions universitaires et, enfin, avec un contenu vraiment intéressant. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on serve de ça pour créer du lien avec nos patients et puis entre professionnels. Ça, c'est vraiment, mais ce genre de journée, ça participe à ça. Donc c'est bien.
Merci beaucoup. Madame Monnier.
Moi, je vais aller très vite. Mon cœur de métier, c'est la grippe, quand même. Donc, je vais rester que sur la grippe. Je crois qu'on nous a donné beaucoup, beaucoup d'outils. Enfin, moi, je sentais une vraie, ce que disait Daniel tout à l'heure, il y a une vraie implication des autorités de santé pour aller globalement sur la vaccination et en particulier sur la grippe. Voilà, il ne faut pas toujours critiquer ou dire c'est de la faute des autres. Il faut aussi qu'on regarde chez nous. Et on peut mieux faire tous autant qu'on est. Donc, allons-y.
Donc formation, information, network, implication, voilà les mots de la fin pour réussir la vaccination et motiver tout le monde à vacciner. Merci beaucoup. Et donc on reprendra tous ces focus à la rentrée au mois de janvier. Merci et bonne fin d'année à tout le monde. Merci beaucoup.